Aujourd'hui, maman est morte.
Faites-vous quelque chose de sale, hein? Faites-vous par exemple une chose dont vos parents ne savent rien.
Faites attention à bien savoir jusqu'où vous allez trop loin.
Outrepassez-vous les règles.
Tu t'appelles Buck. C'est ça. Ça rime avec fuck. C'est bien ça.
Le canard siffleur mexicain, un programme littéraire, musical et parfois cinéphile.
Il y avait donc Brassens, Léo Ferré, Mouloudi, Moustaki, c'est mon frère.
Bonjour Fred Astaire.
Salut Gonzalo.
C'est un plaisir de te revoir.
C'est gentil, un plaisir partagé.
De qui, de quoi nous parles-tu?
Alors un livre qui s'appelle Cosmic Banditos. Un livre d'un mystérieux A.C. Weisbecker, qui est en fait Alan Weisbecker, qui est un ancien surfeur, et non, d'ailleurs un surfeur tout court, et qui a maintenant 70 balais, mais un ancien scénariste de Miami Vice, un ancien trafiquant de drogue, international, qui a eu beaucoup d'ennuis, beaucoup de soucis, qui a vécu beaucoup d'aventures, et qui a écrit un premier roman, en 1996, qui peut pas être complètement autobiographique, c'est trop déjanté pour ça. Enfin, mais je pense que c'est en partie inspiré de beaucoup de choses qu'il a vécues dans une vie très mouvementée.
Haven't been down there since 35.
Sunlight laughing. La violence, la guerre, ne se mesure pas forcément au nombre de victimes. La terreur qui règne en Colombie, une terreur intériorisée depuis longtemps, c'est difficile à mesurer. On va la mesurer avec des mots, avec des émotions, avec des silences aussi. C'est difficile à mesurer, ça dure depuis très très longtemps. Là, on est dans cette région du Putumayo, tout au sud de la Colombie, à la frontière avec l'Équateur, parce que là se concentrent toutes les plaies de ce pays, tous les éléments explosifs de ce pays, la coca, le pétrole, les FARC, les paramilitaires, les militaires aujourd'hui, les questions d'agrocarburant, enfin, tout ça est là et s'affronte dans un cocktail explosif. Pour ceux qui subissent toujours ces exactions paramilitaires, c'est pas seulement un sentiment, on va le voir, c'est une réalité.
Si tu disais on y va, si tu disais j'en ai tellement marre d'être ici, je t'écouterai, crois-moi, je n'hésiterai pas, que ce soit pour une ville ou pour un bled, un bout de terre paumée, crois-moi. Ça ne me défriserait pas. Je serais prête comme si j'attendais. If you said let's go, everything's not that bad, I'd be ready to leave, I'd be answering you, yes. Every wall, every crack, I'm so sick and tired of this place. If you'd only listen to you, I'd be ready as if I was waiting.
Je place un peu le narrateur. Donc, au début du livre, on voit le narrateur qui, donc on ne saura jamais le nom, qui on comprend qu'il est planqué en Colombie, dans la jungle, et qu'il est recherché à peu près par toutes les polices du monde et les stupes, etc. Et il a un ami qui s'appelle José. José, c'est un banditos. C'est un seigneur de la dope. Et il a deux animaux avec lui, qui partagent sa petite cabane. Ça va avoir un serpent qui s'appelle Legs, c'est-à-dire jambe, et un chien un peu grassouillé qui s'appelle High Pockets. Au début de l'histoire, on va comprendre, il va nous raconter pourquoi il est en planque au fin fond de la jungle colombienne, et en parallèle. Il va nous raconter comment José, qui va faire des coups avec sa troupe de banditos, donc dépouiller les touristes dans les villes avoisinantes, un jour dépouille une famille américaine lambda et ramène son butin dans la cabane. Et en regardant un peu ce que son ami José a ramené, il va découvrir la physique quantique. Donc c'est tout à fait improbable. Et en fait, cette physique quantique va le suivre pendant tout au long du récit. Donc là, je vais raconter comment il découvre l'existence de cette famille, et en particulier de la fille aînée.
Je suis prête depuis longtemps, mais tu n'es rien de tout ça. Tu ne décides rien, je ne sais pas si tu as idée de ce qu'on pourrait faire. Je me demande pourquoi tu es là.
un père, une mère et deux adolescentes. L'une des filles, Tina, c'est son nom, avait écrit à son petit ami, Tom, l'informant qu'Aruba, c'est joli, et que son espoir à son retour serait de pouvoir reprendre les choses à deux. Puis, elle clamait l'amour qu'elle lui portait et ajoutait environ un millier de petits X tout autour de la carte. À vrai dire, j'estime que Tina est une grande salope. La pute écrivait aussi à un type de San Francisco, Gary. C'est son nom, celui-là. Elle lui distillait son venin. Ce qui m'amène à penser que ce vieux Gary aurait droit à une scène mouvementée lorsque Tina serait de retour. Elle clamait pareillement qu'elle l'aimait lui et s'appliquait de sa petite signature habituelle à coups de classé X. Pour mon propre compte, j'ai additionné l'X sur les deux cartes. Tom l'emporte au point. Les divers effets personnels de la famille n'offraient sur leur compte pas de grandes indications supplémentaires, si ce n'était qu'ils renforçaient mes soupçons concernant Tina. La nymphomaniaque d'âge mineur avait pour le voyage emporté son diaphragme. Je savais qu'il lui appartenait parce qu'il était soigneusement dissimulé dans une pochette de sa trousse de maquillage avec ses initiales dessus. Visiblement, la petite cochonne ne voulait pas qu'un officiel des douanes l'exhibe devant ses parents. Évidemment, elle se disposait à terroriser sexuellement les populations de tout pays où ses parents l'amèneraient à traîner. Dans ma correspondance à venir, je ne manquerai pas de rapporter ce fait à Tom et Gary. Parce que là, donc, le narrateur décide, il trouve ça pas moral, et il décide de prévenir les deux copains de la petite Tina pour les avertir du fait que leur copine, c'est un peu, elle est un peu légère.
Quoi, on peut détrousser, vendre de la drogue, mais quand même avoir une morale.
Tout à fait, alors lui, il est carrément moral. Et en même temps, voilà, ce qu'il découvre également dans le stock. De façon flagrante, ce qui restait du stock de lecture appartenait au père, à moins que la physique subatomique des particules et de la cosmologie ne fasse partie des lectures de Tina en plus de ses intérêts plus biologiques. J'ai l'impression que ses connaissances en physique nucléaire doivent au mieux se résumer dans la creuse vulgarisation de la théorie du Big Bang. Les titres de ses ouvrages suffisent à ébranler intellectuellement une personne d'intelligence moyenne. Quoi qu'il en soit, ayant peu à faire, je me suis plongé dedans. Le soir, après un copieux dîner, j'ai fait la lecture à High Pockets, c'est le nom du chien, tandis qu'autour de notre petite demeure, les bêtes sauvages grondaient et ululaient. Un truc prenant, particulièrement si l'on se trouve isolé dans la jungle pour un bon bout de temps avec un chien, un serpent et une infinie quantité de drogue. Ainsi, le pluriel d'univers que définit la mécanique des quantas affirme que les éditions différentes et simultanées de notre vie dans ce pluriel d'univers, en nombre incalculable, sont pour chacune d'entre elles réelles. Jusqu'à ce que je tombe sur ce passage, je n'avais pas pris ce livre très au sérieux. Je jugeais que c'était un merdique n'importe quoi, ça sautait aux yeux, mais ce concept, je dois le dire, m'a fait revenir dessus. Et donc là, notre ami narrateur commence vraiment à s'intéresser à la physique quantique, aux quarks, aux quarks, etc. etc. Et il va être convaincu d'une chose, il faut donc prévenir les copains de Tina. Et comme il est seul, isolé, il veut entretenir une correspondance également avec le père. Pour ce faire, il va passer par un système de petites annonces dans un journal qui s'appelle l'International Herald Tribune. Il en parle à José, bien sûr, son ami de toujours. José était toujours hostile à tout échange de correspondance. J'imagine qu'au nom des raisons de sécurité, il a raison. Alors je proposais un compromis. À l'heure présente, sans doute possible, le père de Tina est retourné à Sausalito. Mon projet est de lui faire parvenir une rêveuse lettre anonyme et de lui demander d'y répondre par le biais des annonces classées du International Herald Tribune. Je lui demanderai d'adresser ces annonces à Mr. Quark. Quark étant les plus intéressantes et les plus imprévisibles des particules subatomiques. Et si mon attente n'est pas déçue, s'ensuivra un fructueux dialogue subatomique. Donc voilà, donc là c'est le début vraiment de l'histoire. Alors le livre, en même temps, on va donc dans différents chapitres, on va revenir en arrière pour savoir donc c'est les aventures qui l'ont amené là, et c'est des trucs complètement déjantés quoi. C'est vraiment c'est hallucinant. Donc moi je vais rester sur la correspondance de Monsieur Quark et du père de Tina. Et comment ça se déroule. Donc à un moment il commence à être vraiment désespéré, etc. etc. parce que rien ne se passe comme il veut. À un moment arrive la bonne nouvelle. La vraie nouvelle, la grande nouvelle, n'a pour autant rien à voir avec la partie de baseball bandito. Elle est arrivée hier et mon rythme cardiaque n'a toujours pas retrouvé ses pulsions normales. Vous êtes prêts ? Parfait. La voilà. J'ai eu des nouvelles du père de Tina. À présent, il me paraît évident, bien que ce soupçon m'ait toujours accompagné, que ma vie, de quelque étrange façon subatomique, est liée à celle du père de Tina. Mais dans mon état d'absolue sérénité spirituelle, je n'ai pas approfondi la question. Dans l'univers trivial du jeu de baseball bandito, je siffle des décisions, mais lorsqu'il est question de la grande énigme, quand le cosmique bandito se transforme de mieux en mieux en révélation cuisine et maison, qui suis-je pour décider ou juger ? Dans ma première lettre au père de Tina, je lui avais demandé de me contacter en tant que Mr. Quark, par le biais des annonces du International Tribune. Quark étant la particule subatomique la plus insaisissable. Subséquemment, comme vous devez vous en souvenir, j'avais obtenu que les potes banditos de José postent à son adresse ses messages cryptiques, depuis les différentes places fortes banditos, afin de voir s'ils comprendraient ma référence à différentes interprétations du monde selon la mécanique quantique. La réponse du père de Tina fut plus lumineuse que tout ce que j'avais pu espérer. Voilà ce qu'il disait dans l'annonce. « Mr. Quark, s'il vous plaît, laissez-nous tranquilles, moi et ma famille. »
Got shot down. Black smoke in my lungs and in my eyes. Black smoke in my feeling. Black smoke that I leave behind. I got shot down. I told myself I was greedy for it. I was greedy for it. I went out to the river, but the river's drowned. I went out to the river, but the river's choked in black smoke, black smoke. My reflection.
Donc il y a une réponse du père de Tina, et maintenant il s'est mis en tête d'aller le voir chez lui à Sausalito, dans la banlieue de San Francisco, pour vraiment arriver au bout de sa compréhension de la mécanique quantique. Mais pour y arriver, évidemment, quand on est recherché par toutes les polices du monde, de la Colombie à San Francisco, il faut avoir l'aide de Banditos. Mais pour convaincre les Banditos, il faut convaincre le chef des Banditos, José. Donc là, je vais vous lire le passage où il essaie de convaincre, il explique la mécanique quantique à un chef Banditos. J'ai progressivement conduit José sur le chemin de l'illumination. Je l'ai accompagné dans le monde quantique en commençant par le commencement, son braquage de la famille de Tina. Au préalable, je posais une question. Voici en quoi elle consistait. Si nous étions à même de remonter le temps jusqu'au Big Bang, quelles seraient alors les chances pour que 10 à 15 milliards d'années plus tard, José se retrouve à Santa Maria International en train de braquer une nymphomane pubère et sa famille? Naturellement, José en fut ahuri. Je lui suggérais alors qu'un bookmaker cosmique nous aurait accordé un pari à forte cote, probablement un infini contre un. Là, le regard de José s'alluma. Il me demanda combien nous avions parié. Ce qui m'expliqua à lui expliquer que l'importance de la mise était sans intérêt puisqu'un infini de fois n'importe quoi est égal à un nombre infini. Ceci jetait à nouveau José dans les transes. Il fallut deux bouteilles supplémentaires de tequila corsées de fleurs de peyote épanouies pour le ramener sur Terre. User de métaphores pour s'expliquer devant un bandito peut être risqué. Je donnais le vertige à José en lui suggérant qu'il était possible qu'en plus du rival bandito de l'autre côté de la montagne, il puisse également compter des ennemis banditos dans un nombre infini d'univers différents. L'astucieux lecteur a saisi évidemment que j'allais jusqu'au bout de moi-même, en creusant à partir de rien les différents mondes selon l'interprétation de la mécanique quantique. Mon José est un auditeur difficile, il me fallait donc retenir son attention avant que son esprit ne vagabonde ou que les drogues ne le rendent raide. Quoi qu'il en soit, la possibilité pour un nombre infini de banditos pleine charge commettant des ravages dans un nombre infini d'univers alternatifs faisait monter chez José le taux d'adrénaline. Il posa sa mitraillette Thompson sur la table, pivota sur lui-même afin de couvrir la porte juste au cas où des banditos alternatifs déciderait de s'actualiser dans notre univers et de balayer notre cabane. Le deuxième jour fut consacré à la révision du premier jour. Le troisième jour à la théorie de la relativité. Le quatrième jour au principe d'incertitude d'Heisenberg et la dualité éther-particule. Le cinquième jour, un survol de travaux de Lorentz, Dirac, Planck, Bohr et Schrödinger. Le sixième jour, essentiellement consacré à la méditation et à différentes formes de stupeur. Le septième jour était le grand jour, le jour, ainsi l'avais-je promis à José, où je lâcherai la bombe quantique. Le septième jour, je dévoilerai l'âme de la théorie des quantas. Je décrirai un phénomène qu'il est absolument impossible de décrire par une méthode classique, ce phénomène qui est la particularité fondamentale de toute la mécanique quantique, l'expérience de la double fente. L'expérience de la double fente était le coup de grâce, dans la mesure où ça concernait José. Vers la fin du septième jour, José était devenu un bandito quantique et, par voie de conséquence, n'aurait plus longtemps à souffrir de la paranoïa d'un bandido alternatif.
Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Thank you.
tocar guitarra, me gusta cantar el sol. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción.
Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal de la sabor.
Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón.
J'en vins alors à décrire ce qui se produisait lorsqu'on comptait deux voies d'accès en vue de pénétrer la garnison. D'où le nom d'expérience de la double fente. Deux fentes obligent les unités subatomiques à l'interface, avec chacune d'entre elles du fait de leur propriété genre vague. La stupéfiante conséquence de cet aspect de l'expérience est que, tandis que les unités subatomiques entrent par une fente ou par l'autre, elles savent si oui ou non l'autre fente est ouverte, indépendamment de savoir si elle est utilisée par d'autres unités. La vraie bombe, non que celle-ci ne compte pour rien et que ces petites salopes semblent savoir sur le champ à quel moment elles sont observées et modifient leur comportement de façon nécessaire. Les particules subatomiques semblent servir de doigt cosmique à l'univers. Allez vous faire mettre ailleurs, paraissait-elle dire. Occupez-vous de vos affaires.
1965. The great San Francisco acid wave. I recall one night in a place called the Matrix. There I was, a natural street freak, just eating whatever came by. I decided to eat only half of the acid at first, but I spilled the rest on the sleeve of my red woolen shirt.
C'est un Weissbaker, c'est un cromlet cosmique?
Ah non, c'est plus un... Moi, ça m'a fait penser à... Dans le côté déjanté à Thompson, Hunter Thompson, complètement. C'est pas du tout écrit avec la même le côté incisif et avec la même force. C'est un petit livre que moi qui m'a fait hurler de rire. C'est Alan Weissbaker, c'est quelqu'un qui a quand même fait beaucoup de trafic de drogue, qui a été recherché par toutes les polices, qui a failli être tué plein de fois, enfin qui est toujours encore jamais trop en sécurité. Maintenant, il est au Costa Rica, mais il a fait d'autres livres après. Parce que sa passion, c'est aussi le surf. Mais il a ce côté surfeur, pas le côté surfeur avec les t-shirts de marque, etc. Vraiment le côté surfeur à l'origine, tu sais, vraiment où on balance tout. Et puis vraiment la pureté du surf qui, moi, me touche pas, évidemment, parce que c'est pas un milieu qui m'intéresse. Mais moi, ça me fait penser, parce qu'il ressemble un peu à John Carpenter, bizarrement physiquement. J'ai réussi à voir des photos de lui avec la moustache, etc. Et ça m'a fait penser à Los Angeles 2013 avec Peter Fonda qui cherche la vague, tout ça. Et puis évidemment Kurt Groku Russell qui recherche l'esprit des pionniers de l'Amérique. C'est exactement ça. Donc il a écrit deux autres livres, hein, qui s'appellent In Search of Captain Zero, qui raconte comment plus tard dans les années, des années 90, alors qu'il était revenu à Long Island, il va tout bazardé, il vide son compte en banque. Il raconte comment, quand il veut vider son compte en banque, il demande 30 000 dollars en espèces et on lui explique qu'on peut pas, il faut réserver à l'avance, etc. Enfin, c'est tout un micmac. Et après, il va rejoindre un vieux copain de surf des années 70 dont il n'y a plus de nouvelles. Et c'est complètement déjanté, c'est franchement drôle. Je pense que je passerai pas forcément mes dimanches après-midi avec lui parce qu'il a l'air vraiment barré. Mais je le recommande parce que ça se lit très bien, c'est un univers assez rigolo. Et vraiment, moi, ce côté, les particules subatomiques, la physique quantique et le monde des banditos qui se crache avec la drogue et tout ça, je trouve ça assez drôle et c'est bien fait, donc ça m'a bien plu.
Fred Astaire, merci.
Un plaisir.
Poète, chanter, il y avait donc Brassens, Léo Ferré, Mouloudi. Moustaki, c'est mon frère. Oui.